Georges Courteline, Les Linottes, chapitre 1. Le 31 du mois d'août, vers les 9 heures du matin, Robert Causal regagna ses pénates, s'étant levé avec les coqs. Il était chaussé d'espadrilles, coiffé d'une casquette de vacher, et il revenait de la rue des Saules où il était allé boire du vin blanc et manger un bout de saucisson à la porte d'un mastroquet, en regardant les landes fumées des chemins de fer flotter dans l'air bleu de lointain. Il en usait ainsi chaque matin, à moins que le temps s'y opposât. Le lundi seulement et le jeudi, jour où Madame Hamlet, sa maîtresse, le venait voir, il modifiait son ordinaire et déjeunait de fromage blanc, crainte de troubler d'un relent d'ail l'extase des intimités. Très nomade et capricieux, aimant la nouveauté jusqu'à changer 3 fois par mois son lit de place, histoire de goûter au réveil l'exquise impression de la surprise, il n'était guère un coin de Paris où cet aimable garçon n'eût planté un instant sa tente. À la fin, il avait fait comme tout le monde, il avait échoué à Montmartre, et depuis le printemps, il filait d'heureux jours, sous les ombrages de la villa Bonabri. Une double forêt d'acacias et de hêtres dégringolant à pic au flanc d'une commune allée la pente nord de la butte. Et le fait est que c'était délicieux, ce coin de banlieue prématuré, poussé là, sans que l'on sût comment, semé d'habitations coquettes, de haies frêles, où les liserons couraient en clochettes légères, et que les dimanches de beau temps emplissaient d'un tapage de bonbons champêtres. Il y en avait pour tous les goûts, et aussi pour toutes les bourses, depuis le manoir à tourelles, dont les étroites meurtrières éclairent les water-closets, jusqu'à l'humble cahute de planches coiffée d'un zinc à rail que roule le coup la pluie. De bourse et de goût également modeste, Robert Causal avait pris le juste milieu. Il payait 1200 francs par an le droit d'exécuter d'agréables variations sur le thème célèbre de Jean-Jacques, une maisonnette blanche avec des contrevents verts. Vraie maison de Socrate pour l'exiguïté, si basse qu'un couple de platanes se rejoignait par-dessus son toit et s'y enlaçait en rameau fraternel. Là, il goûtait les grandes douceurs de paix qu'avait toujours convoité sa paresse, restant parfois des heures entières le dos dans les herbes de sa pelouse, à regarder planer d'immobiles cerfs-volants qu'enlevaient des gamins rue Lamarque. À midi, il passait son veston d'alpaga, se coiffait de sa casquette et partait déjeuner au petit bonheur de ses pas. Au lapin agile, par exemple, ou sous les phtisiques tonnelles du site enchanteur, une façon d'auberge de grand chemin échappait à un décor de mélodrame et que seul un miracle semblait empêcher de glisser comme un wagonnet de montagnes russes sur la dégringolade de la rue du Mont-Cenis. Quelque temps, il avait ainsi promené, de bouchon en bouchon, son hésitante clientèle, mais un matin, qu'il était venu tirer de l'eau, puis banal, de la villa Bonabri, il avait fait la connaissance du musicien Stephen Hoare, son voisin, en lui inondant les souliers du trop-plein de ses arrosoirs, et depuis lors, devenus grands amis, les deux hommes dînaient ensemble dans une gargote de la rue Saint-Rustique, dont la hurissante enseigne « Olivier et pieds de mouton » avait le pouvoir de jeter Causal à des abîmes de rêverie. Ils mangeaient en plein air, à la fraîcheur d'un chèvrefeuille, qu'allumait de verres éclatants une lampe posée entre eux, s'attardaient ensuite à causer, devant les lits de sucre fondu restés au fond de leur tasse, d'un projet de collaboration. Un opéra comique, Louis XV, appelé Madame Brimborion, que Causal achevait tout doucement, en s'amusant, pour occuper ses loisirs. Hoare, du reste, pour qui la vie n'avait eu la dent un peu dure et qui ne dérageait pas contre elle, avait en tout et pour tout deux sujets de conversation. Deux, sa musique et sa maîtresse. Sorti de là, il bourrait sa pipe et laissait dire, désintéressé, retranché, si on venait à le questionner, derrière le vague geste ignorant du monsieur qui s'en bat l'orbite. Sa musique. À la vérité, deux mornes chutes résumaient sa carrière. Premièrement, à l'opéra, Servage, épopée tragique, intentionnellement traitée en opérette, ou ayant tenu à prouver qu'il savait être homme de verve le jour où ça lui convenait. Et aux folies dramatiques, La main chaude, opérette bouffe débordante d'âpre érudition et d'insipide solennité, ou ayant voulu cette fois établir qu'il avait plus d'une corde à son arc et que, s'il excellait à se montrer badin lorsqu'il convenait qu'il fût grave, en revanche, il était sans égal pour triompher quand il fallait être plaisant dans le bel art d'être sévère. Avec ce joli système où se synthétisait tout entière la vanité intransigeante et insociable du personnage, il en était venu, lui, prix de Rome de 1895, à bricoler pour l'éditeur Barbaillé, qui les lui payait 20 francs pièce, des réductions enfantines d'œuvres célèbres tombées dans le domaine public, et à battre le reste du temps le pavé de la capitale pour trouver des leçons de piano, qu'il trouvait, et ne gardait jamais plus de 8 jours, tant il apportait de promptitude à dégoûter les gens les mieux intentionnés. Les quelques louises ainsi glanées de droite et de gauche, joints aux quelques pièces de 100 sous qu'il touchait à l'agence des auteurs et compositeurs dramatiques, il était l'auteur d'une romance célèbre, Cueillons les roses, et aux petits revenus qu'il avait hérités de sa mère, lui constituait une maigre aisance, dont l'allégeait, avec une incontestable dextérité, la jeune Hélène, aimable voyou juponné de 17 à 18 ans, qu'il avait mise dans ses meubles et qu'il idolâtrait et rouait de coups tout ensemble. Rue de l'Orient, une venelle en coude qu'écrase la crête de la butte sous l'ombre allongée de ses moulins, il lui avait loué, meublé, un petit rez-de-chaussée de 3 pièces, où étaient venus coucher, les uns après les autres, tous les rigolos de Montmartre, sauf lui, qu'elle renvoyait impitoyablement à sa niche de la villa. Car cette prodigue de soi-même, de qui nul pied n'avait en vain agacé le pied sous une table, se montrait avec lui d'une lésinerie inouïe, d'une ladrerie qui ne désarmait par-ci par-là qu'avec des soupirs assommés, et qui, après l'avoir lentement exaspéré, le jetait soudain à des accès de folie furieuse. « Saleté !» criait-il, « coquine ! En voilà encore des façons !» Mais si je te dégoûte, faut le dire. Mais elle, froidement, faut le dire, ben je le dis. Je te dégoûte? Oui, tu me dégoûtes. Alors Stéphane ouvre hors de lui. Mais sale bête, hurlait-il, sale bête. Et là-dessus, c'était des batailles d'étourdir la maison, des pourchats extravagants autour des meubles culbutés, des scènes de pugilat en chambre, d'où il sortait, lui comme d'une catastrophe à laquelle il n'aurait échappé que par miracle, éperdu, muet, les lèvres blêmes, elle, comme de son lit, mon Dieu, reposée, souriante et calme, toute colorée de calotte et ravie d'avoir fait écumer le gros homme. Pauvre gros homme! Torturé de jalousie latente et de désirs insatisfaits, deux fois trahi et deux fois malheureux dans les deux seules passions qui me menacent sa vie, volontiers et indifféremment, il s'en prenait à l'une de l'autre. À l'ingratitude de son art, il reprochait les tristes consolations demandées à ses sales amours, et à ses amours, les cruelles représailles de son art bêtement négligé et galvaudé pour elle, et qui se vengeait. Il passait la moitié de sa vie à faire le serment de lâcher la coquine, et l'autre moitié à le refaire. De quoi se divertissait fort Omer Causal, demeuré très bébé malgré ses 25 ans, et qu'amusait au suprême degré l'éloquence pittoresque et pleine de laisser-aller de son ami. Celui-ci, par sa large face embroussaillée, le flamboiement sombre de ses yeux, le perpétuel grondement de rage qui filtrait de ses lèvres closes et l'entretenait au centre d'un essaim bourdonnant de grosses mouches, apparaissait à celui-là tel un sanglier monstrueux. Ce même matin, 31e du mois d'août, Causal devait être ébahi à découvrir en quelle bauge le sanglier vivait comme un cochon. Il avait, la veille au soir, achevé le second acte de Madame Brimborion, et, pressé de lui faire tenir la bonne nouvelle, il se décida à franchir, en dépit de l'heure matinale, le seuil de son collaborateur. En pénétrant dans la villa Bonabri, le premier cottage rencontré était celui de Stephen Hoare. Il se composait d'une chose qui avait été un jardin, ainsi qu'en attestaient les buis empoussiérés, surgis des herbes par instants et marquant l'emplacement de corbeilles disparues, et d'un cube énorme de verdure qui était l'habitation. De la maison, en effet, plus rien que l'enchevêtrement confus des vignes vierges qui en matelassaient la toiture pour chasser de là jusqu'au sol, en stalactites compactes, leurs jeunes pousses troussées et tendres. Robert Causal, cherchant la porte, les dut écarter de ses deux bras, ainsi qu'il eût fait de lourds rideaux. La clé, mise une fois pour toutes à la serrure, n'en avait on que bougé le puits. Il entra. « Hé, quoi ? Qui va là ?» fit une voix qui parut sortir d'un souterrain et qui en réalité était celle de Stephen Hoare, couché à même le plancher. « Ah, oh, c'est vous ! Eh bien, vrai, vous m'avez pas le trac d'être sur vos pattes à cette heure-ci. Le diable vous emporte, mon bon !» En même temps, par le bain d'ombre noyant la pièce, une pâleur imprécise et vivante s'agita. Hoare éveillé en sursaut, qui se soulevait sur ses paumes. Interloqué. « Oh, je vous dérange, vous dormiez encore !» fit Causal. Hoare avait un langage à lui dont les volontés de continence d'une exaspération perpétuelle mangeait la moitié au passage, et dont suintait le reste, tant bien que mal, à travers la flambaison dense d'une moustache en chute d'eau. Sa réponse fut un grognement de truie, à qui on a donné du pied dans le groin. « Oh, Hercule, pas midi, je parie. Oh non, être réveillé à 2 heures pareil, enfin !» Et il ajouta, « Tirez donc le rideau, on est comme dans une cave ici. » Causal, ravi d'y voir clair, s'empressa, et il demeura effaré à se demander s'il rêvait. À peine distingué dans l'affreux crépuscule, tombé là tout à coup des verdures du dehors, c'était sous ses yeux le plus fou, le plus invraisemblable repère de sous-fripier qu'ait jamais abrité la moment les enfoncements sinistres de ses impasses. Des loques, des chaussures moisies et encroûtées d'antiques boues, des chapeaux ravagés d'usure, et dont là, ô surprise, un melun au vaste bord, que sans doute la main de son propriétaire avait impatiemment lancé à la volée, flottait comme un navire à l'ancre entre les eaux savonneuses et épaisses d'une cuvette. Sur la tablette, fendue en deux, d'une cheminée qui était un cellier et dont la trappe démantibulée ouvrait un jour un angle aigu sur l'âtre hérissé de bouteilles vides, cette cuvette occupait la place de la pendule, laquelle, juchée sur la corniche d'un colossal bahut de chêne, projetait un rouleau de musique hors du trou béant de son cadran à dents, parti lui-même avec Jean, voir s'ils viennent. Des milliers de bouts d'allumettes saupoudraient de grésil le plancher, des mégots de cigarettes crachés au hasard de la lèvre léperaient bizarrement les murs d'une invasion d'énormes cloportes immobiles, et Stéphane Hour, à demi hébergé du pêle-mêle de ses couvertures, entre un pot de nuit à sa droite et un monticule de tabac à sa gauche, était une horreur de plus, parmi tant d'autres. Il y avait mieux, cependant. La vraie surprise de ce claque-dent, ce qui, d'une chose simplement extraordinaire, faisait une chose fantastique, c'était l'attendrissant piano qui servait au compositeur à y parfaire ses chefs-d'œuvre. Oh non, ça me... Oh, les choses vraiment ont des mélancolies à elles, des tristesses qui leur sont propres. Avec son clavier, comparable à la mâchoire safranée d'une quécresse octogénaire, le piano de Stéphane Hour eût évoqué la vision du capitaine Castagnette, si plutôt il eût fait songer à un pauvre âne écorché et vif, par son ventre, son triste ventre, défoncé en cerceau de cirque sur ses entrailles de laiton. De ses colonnettes de soutien, frères spirales où s'accrochait le jour, l'une se calait, amputée à mi-jambe, au cul d'un seau renversé, et les deux accroches de cuivre, d'où les appliques avaient fui, qui flanquait des zigzags baroques du pupitre, pointait sur son avant, telle sur une plate poitrine, les petits, tout petits étons d'une grande bringue de pensionnaire. Installé au sein de ce fumier, de biais et énigmatiquement à contre-jour, il s'y dressait avec l'hésitation inquiète d'un homme saoul échoué quelque part, sans être son juste rendu compte par la faveur de quel miracle. Or, chose inouïe, à cette épinette apocalyptique et de laquelle se battaient les cordes avec des coquilles de noix, des carcasses de boîtes d'allumettes et des fragments de papier encore gras des reliefs de charcuterie qu'ils avaient enveloppés naguère, Stéphane Hour arrachait des sons. Quels sont, oh, la porte des sons, des mélancolies atténuées, lointaines, lointaines, oh, lointaines, qui avaient la plaintive douceur des souvenirs d'enfance effacés à demi, et cela était à la fois profondément triste et grotesque, parce qu'à la musique douloureuse sanglotée au flanc de l'instrument, une autre musique se mêlait, la danse tremblotée de lances sur les parois sonores du sceau. Oui, oh, un peu en désordre ici, dit négligemment Stéphane Hour, qui avait suivi de son regard le regard ahuri de Causal, et qui ajouta ce mot superbe. Bon, je fais mon ménage moi-même, excusez, hein. Que ça fait d'ailleurs, allez. Vous avez à me parler ? Causal, nous le répétons, portait en soi de vieux restes d'enfance puis lui remontait parfois aux lèvres en fou rire de petit collégien. Depuis un instant, il se contenait, les dents plantées à même une belle fusée joyeuse. Il se hâta. Il répondit gravement: Oh, c'est sans importance, cher ami, j'ai deux actes faits de notre machine, alors j'étais venu pour vous en avertir, voilà tout. Si cette révélation fut ou non agréable à celui qu'elle l'intéressait, c'est ce que nous ne saurions préciser sans une grande témérité. Constatons qu'il y répondit par une suite d'onomatopées, d'où jaillirent seulement ces deux vérités, à savoir qu'il était un grand méconnu et que les directeurs de théâtre étaient tous d'immondes idiots. Ah, les cochons! Ah, les brutes! L'orgueil démesuré et fou de Stéphanour, sans précédent dans le passé et sans équivalent possible dans l'avenir, atteignait à de telles invraisemblances que ça en devenait touchant. À le voir se plonger jusqu'aux cheveux en une pleine mer d'extravagante vanité, s'y ébattre, y faire le gentil et le gracieux, et déclarer tranquillement que jamais on n'avait rien vu de pareil depuis que le monde était monde, car c'était aussi bête que ça, les irréfléchis seuls riaient. Il y avait dans son impudeur un peu de la candeur attristante des filles à se mettre nues devant le monde, et telle était son inconscience, quand il se couronnait lui-même des lauriers du triomphateur, que c'était véritablement en avoir les bras cassés. Il fut tout à fait bien cette fois, d'une sottise outrecuidante qui eût fait pleurer de tendresse les rochers, le Franchard et le Marlotte, et jusqu'aux falaises d'Étretat. Une heure durant, à la joie indicible de Robert Cosal, dont se délectait en bec fin l'observation malicieuse, il entassa, nouvelle encelade, des montagnes d'énormité, disant que de tout temps, « Oui, mon cher, de tout temps !» il avait fait l'admiration de populations en délire. À l'école communale, d'abord, on l'avait mis hors père, dès l'âge le plus tendre, son sens merveilleux de la musique, et plus tard à Pont-à-Mousson, où on venait l'entendre de 10 lieues jouer de l'orgue à la cathédrale le dimanche, tellement il était épatant dans l'art de nuancer une phrase et d'arracher un accord attardé parmi les basses graves, le cri de misère et de détresse de l'humanité tout entière. Et savez-vous à quel âge? À 11 ans. À 11 ans, c'est insensé, hein? Quel cœur, quelle âme! Quel imbécile, pensait en soi Robert Cosal, tout en affectant d'approuver et même de surenchérir, tandis que l'autre en venait à peu à des monstruosités, encouragé et rengorgé, l'œil rond d'un cacatoès, à qui on gratte l'occiput en disant « Il est beau, coco !» La contemplation de son moi grisait cet infortuné comme le spectacle de sa propre grâce affole une enfant vicieuse. Il finit complètement saoulé par dresser hors de son lit son torse velu, nu et suant, et par brailler, la mesure battue à tour de bras, une façon de marche triomphale qu'il avait jadis composée en l'honneur du ministre de l'Instruction publique, venu poser la première pierre du lycée de Vannes en Lorraine. Écoutez un peu ça, Cosal. Tra-la-la-la, boum, boum, très chouette, hein. Zim, amusons-le, coup de cymbale. Broum, broum, les brassons. Tu, 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 entendez-vous les clarinettes? Broum, et toujours la mélodie. Car voilà ce qu'il y a d'admirable avec moi. Le respect de la mélodie. Un sourire errait sur sa face. À l'envisager le temps de génie, ses yeux se trempaient de nobles larmes. Et sans transition, à propos de rien, il s'en prit à la jeune Hélène, avec, dans le terme, une recherche de l'ignoble, de l'ordure, de l'abjection, qui trahissait en lui les fonds de tendresse blessés d'une brute sentimentale. Il crayonna de son amoureuse une esquisse petite silhouette. Vache, fumier, charogne, pis encore. Une rousse pour laquelle j'ai tout fait, à laquelle j'ai tout sacrifié, une chaire au conservatoire, la Légion d'honneur, l'Institut. Cette avalanche de dignité lui paraissait si strictement en rapport avec ses titres à les obtenir qu'il ne doutait même plus qu'on ne lui pût offerte. Quand on songe, moi, ou au prix de Rome, en être réduit à battre le cachet, et ça pour une sale volaille qui me fait des queues avec tout le quartier. Vous savez que je ne l'ai pas revu ?»« Bah, fit Causal. Parole d'honneur, voilà 5 jours qu'elle a filé, et depuis, aucune nouvelle. » Une chose particulièrement affolait le musicien, toujours hanté de l'idée fixe de franchir de force ou de ruse le seuil des paradis refusés. Le chic vraiment miraculeux avec lequel Hélène lui glissait dans les doigts à l'instant même où il croyait enfin la tenir. Ceci arrivait en moyenne une fois le mois. Gentiment, bras dessus, bavardant de choses quelconques, ils revenaient de boire les bocs d'une petite brasserie montmartroise dont ils étaient les habitués. Et juste comme ils se glissaient, triomphateurs contents de soi, par l'entrebâillement de la porte de laine ouverte à son coup de sonnette, crac, plus personne. L'aimable enfant avait exécuté un demi-tour, selon les principes et par les rues en précipice que crénelait de baroque découpage la clarté blanche et silencieuse de la lune, elle cavalait agréablement, laissant la traiter de tous les noms et sacrée à gueule que veux-tu ou que sa lourdeur attachait au rivage. Où elle allait? Ce qu'elle devenait? Un problème. 2 ou 3, 4 jours, plus ou moins, on n'entendait plus parler d'elle. Et tout à coup, un matin que l'artiste, en attendant de se lever, mâchonnait des amertumes entre son tabac et le pot de chambre, la porte s'ouvrait d'une poussée et une voix de Gavroche, gai et jeune, demandait « Il est là le phénomène ?» Le phénomène, c'était où? Peut-être cette révélation n'était-elle pas indispensable à la clarté de ce récit. Après un court silence, « 5 jours !» fit Causal, diable, voilà qui devient sérieux. Je serais inquiet à votre place. » Cour, qui avait des finesses d'éléphant, des malices cousues de cordes à puits, se donna l'air de ne pas comprendre. Et un admirable spectacle fut celui de son masque effaré, aux paupières battantes, aux prunelles hagardes, demandant des explications aux atomes épars de l'espace. « Pourquoi inquiet? C'est pas ce que vous voulez me dire. » Il le savait si peu qu'il ne laissa même pas son interlocuteur le temps de lui répondre « Mais si !» Quelle crève! Il lâcha le mot comme un vomissement à pleine gueule. Après quoi, calmé, chameau, enfin c'est fini, il n'est que temps. L'autre leva l'épaule. Ouais, vous en seriez bien fâché. Mais vous dites? « Je dis, reprit Causal, avec une grande douceur, que vous en seriez bien fâché, car ce n'est pas pour vous faire des reproches, mais je commence à la connaître. » À ces mots, une fureur sacrée s'empara de Stéphane Bourg. D'un bond, il fut debout sur son lit. ayant écarté de son bras le drap qui le couvrait tout à l'heure et qui maintenant cachait en partie le plancher. Et de sa bouche, où bafouillaient des empattements exaspérés, tombèrent d'infâmes propos, des bégaiements indistincts, des choses vagues, incohérentes et atroces symphonies, soutenues pourtant du leitmotiv obligé, la gloire et l'immortalité compromises pour une salope d'un artiste de qui la puissante organisation avait jadis transporté l'enthousiasme, les beaux esprits de Vannes en Lorraine, et messieurs les Mussy-Pontins. Causal l'excitait sournoisement, bien que donnant la comédie de quelqu'un qui cherche à apaiser. Au fond, il était comme Hélène. Il adorait faire écumer le gros homme, dont le visage cramoisi lui apparaissait alors le plus grotesque et le plus récréatif du monde. Et il avait des restrictions. Il esquissait des mots d'incrédulité. Il opposait aux tonitruances de our, d'humbles et traîtres, en permettez, fait pour cingler de verges cuisantes l'auteur de « Cueillons les roses », l'amener petit à petit à des crises voisines de l'épilepsie. Il mit le comble à la mesure, en insinuant, avec une tranquille douceur, que le plus grand musicien de tous les temps passés, présents et à venir, était un esprit léger, qui parlait à tort et à travers, disait « Je ferai ci, je ferai ça », et n'y pensait même plus le dos tourné. Une linotte, enfin. Une linotte. Le mot n'avait pas été dit que Stéphanour était déjà au piano. Ses mains lancées de droite et de gauche, à la volée, comme des cloches, soulevaient les flots d'harmonie. Et voilà ce que j'irai sacrifier à une gueuse. Au même instant, Hélène, elle-même, apparut dans le cadre de la porte ouverte. « Tiens, le phénomène est à poil, » dit-elle. « Oh, c'est toi !» cria Stéphanour. « Hors d'ici, poison ! Hors d'ici !» Mais elle ne s'émut pas. Simplement, tendant la main à Causal, « Bonjour, vous. Bonjour, petite fille. Ça va bien ?»« Bien, merci, et vous ?»« Sortiras-tu, tonnerre de Dieu ?» reprit Our, de qui se coloraient les joues en violacés apoplectiques. Causal, « Chasse-moi cette ordure, ou je la jette à la rue avec une pelle ?» Mélène répondit dédaigneuse. « Oh, fais pas donc tant de chichi. Je t'ai dégoté une position. 5 francs par soirée, le dîner et les bocs. » La jeune élève, en effet, avait 3 spécialités. Elle était insensible au coup. Elle mentait avec un toupet désarmant. Elle trouvait toujours quelque chose au cours de ses disparitions. Gosse, elle était déjà comme ça. L'air candide, le sourire aux lèvres, le bras dans l'anse du panier, elle revenait censément de l'école, en réalité, Dieu sait d'où. Et l'ébahissement de sa mère était de découvrir en ses poches des tas d'objets qui y étaient venus tout seuls, des bouchons, des boutons, du sucre, des couvercles de boîtes à cirage, des fers de toupie et des pièces de dessous. Et quand elle demandait « Où as-tu donc eu ça ?» l'autre, si audacieusement, répondait « Ce que je sais, moi !» qu'elle lui tombait inévitablement dessus, conquise à l'impérieux besoin de faire baisser, coûte que coûte, des yeux qui se figent du monde, de faire taire n'importe à quel prix une bouche qui déclare « Je mens !» 10 ans plus tard, les choses avaient seulement changé en ce sens que c'était maintenant à Stéphanour de demander « Où as-tu ça ?» tandis qu'elle, retour de bordée, se donnait l'irritant plaisir de chantonner en se dodinant « J'en ai trouvé une de leçon, Je t'en ai trouvé une de leçon, sans jamais consentir au moindre éclaircissement touchant les gens qui la lui avaient procurée. Car il faut pourtant être juste. Il faut restituer à César ce qui appartient à César. Elle n'avait que de bons sentiments, cette mignonne. Toujours elle pensait à Our lorsqu'elle lui faisait des traits. Jamais elle ne se créait une relation nouvelle que son premier mouvement, l'instinctif, ne fût de l'en faire profiter. Elle était comme ces bonnes sœurs attardées à des soupers de nuit, qui, le bras entré jusqu'au coude en un corsage complaisant, rafle de l'autre main par la débandade des assiettes les noisettes et les petits fours qu'ils rapporteront à madame. Voilà. Et elle trouvait aussi des paires de gants, des bas brodés, des souliers neufs, des choses qui la faisaient belle, quoi. Poussées sur elle comme des champignons par l'intervention du Saint-Esprit. Donc, cette fois encore, elle avait eu la main heureuse. Double trouvaille. Pour elle, un chapeau canotier qui égayait jusqu'à la rendre délicieuse sa laideur de vaurienne futée, lui faisait une frimousse à en mourir de rire. Et pour lui, le sous-sol de la Piborgne, de ses cabarets à piano, où se vient ébattre le soir la jeunesse un peu turbulente de Montmartre. Diable ! Fit le musicien lorsque la petite d'un mot l'eut mise au courant de la situation. Ah ! Ses fureurs étaient tombées. Et il restait, lui, l'œil en dedans, ouvert sur de mystérieuses songeries. Pour cet homme plein d'ingénuité, venu au monde sans appétit, et qui n'avait plus de besoin, pourvu seulement que ses orgueils puissent se regarder dans la glace, c'était ses 100 sous par jour, la timbale enfin décrochée. Mais à peine il la saisissait, qu'il cherchait déjà de quelle huile il pourrait bien soindre les mains, afin qu'elle lui glissât des doigts. Ayant pour mission dans la vie de la caresser à rebrousse-poil, d'interpréter la logique du côté que ce n'était pas vrai, et de faire précisément le contraire de tout ce qu'on espérait de lui. Cosal comprit que sa présence ne pouvait que contrarier les élans d'une réconciliation obligée. Il se retira par discrétion. Chapitre 2. Depuis que la Clémence Céleste, sous la forme d'une rencontre chez une connaissance commune, l'avait jeté au bras de Madame Amiette, ceci remontait à un mois, Robert Cosal vivait comme en un rêve. Parvenu jusqu'à 25 ans, sans avoir eu d'autres amours que les maigres amours bohèmes à base de coups de caprice et de camaraderie complaisante, il était de ces êtres, tout jet auxquels rien ne saurait apparaître qu'avec le grossissement outré et fugitif d'une projection lumineuse. La tombée dans son existence d'une maîtresse qui en était une réellement, ayant à ses yeux adultes le charme ineffable de l'aînesse et le prestige de la femme mariée, avait déterminé chez lui une floraison de sentimentalité spontanée dont rien jusqu'alors n'eût fait soupçonner le germe. Elle, tout pour lui se résumait là maintenant. Volontiers il eût déjeuné de ses sourires, dîné du parfum de ses gants, de ses cheveux ou de sa voilette. Il avait, à la contempler, des regards où riaient les puériles convoitises d'un bébé qui reçoit ses étrennes, à l'effleurer, des mains craintives d'antiqueur pour le bibelot précieux et rare dont la perte serait un œil irréparable. Et ces câlineries 100 fois douces, ces grâces délicates et mignardes qu'autorisaient son air d'extrême jeunesse et sa joliesse distinguée, ces façons de s'aller nicher entre les bras et le feindre des sommeils, ravi parmi la nappe d'encre des cheveux répandus, faisait de lui un amant exquis, flattait en Marthe ce fond de tendresse maternelle qui complique et qui purifie l'ardeur passionnée des femmes déjà mûres. Il la trompait d'ailleurs, mais autant de fois que l'occasion s'en présentait, mais régulièrement le mardi, avec une apprentie blanchisseuse du quartier, apportant à l'accomplissement de ce devoir la ponctualisée zélée d'un employé avide d'avoir de l'avancement. Il avait en effet cette petite faiblesse de ne pouvoir rencontrer un jupon sans éprouver à l'instant même l'envie de le soulever pour voir ce qu'il y avait dessous. C'était un être délicieux qui tenait que les femmes sont des fleurs et que, s'il y avait pour la rose une préférence non douteuse, ne méritait pourtant ni l'humble violette, ni l'œillet odoriférant, ni la pervenche, comparable aux sombres yeux des petits chats, ni l'anthémis, qui porte collerette comme Catherine de Médicis. De même, il aimait fort le lys, à cause de sa forme élancée, le coquelicot, à cause de sa forme épanouie, le lilas mauve à cause de sa couleur mauve et le lilas blanc à cause de sa couleur blanche. Sans doute, à la réflexion, il ne pensait pas qu'il fît bien de tromper ainsi son ami, mais non pas non plus qu'il fît mal, car le cœur n'y était pour rien, et il considérait la chose comme une façon de platonisme à rebours qui laissait en paix ses scrupules. Point jaloux, il eût été pleinement heureux. Le malheur est qu'il l'était, justement, et au-delà de toute expression, d'une jalousie de vieux tyran qui lui portait le sang aux yeux pour une niaiserie. Il avait pour les autres l'intolérance hargneuse des gens qui ont la conscience large pour eux-mêmes, et si ses propres trahisons lui semblaient d'anodin flirtage, en revanche, il traquait de criminels mystères en toute heure de la vie de Marthe, dont celle-ci lui put établir l'emploi aussitôt que questionné. Le spectre du mari, un mari de fantaisie, toujours par Mont et par Vaux, et que l'installation d'une entreprise gigantesque promenait depuis 2 mois à travers la province, mettait une bande d'orage à l'horizon de son ciel. Or, comme il poussait la barrière qui fermait son petit jardin, son étonnement fut extrême de voir Marthe qui l'attendait. Marthe ? On était mardi pourtant. Oh, tout de suite, il flaira une tuile. Marthe, de son côté, s'était levée et ils marchèrent l'un à l'autre. « Comment, c'est toi ?» Marthe répondit « Oui, mon petit chat, et avec une mauvaise nouvelle. Frédéric arrive aujourd'hui. » Ceci l'abasourdit au point qu'il en demeura pétrifié. « Qui ça, Frédéric ? Qui donc ?» Il comprit enfin « Le mari !»« Oh » fit-il. Oh, c'est tout ce qu'il trouva. Le bleu du ciel, le vert des feuilles, la pourpre d'un cordon de géranium qui flambait ardent au soleil, dansait devant ses yeux hagards. Marthe gardait un demi-sourire embarrassé. Elle risquait « Voyons, calme-toi !» Quand il lui ferma la bouche, durement d'un seul mot « Assez !» Et elle n'insista pas, ayant prévu ce dénouement, la crise de rage aveugle et folle qui suivrait la première stupeur. Toujours il fallait qu'elle payât la casse si une anicroche survenait. La responsabilité de l'imprévu rentrait dans ses attributions. Il était avec elle d'un despotisme outré d'enfant gâté et volontaire. Elle le servait, elle lui pardonnait, comme elle lui eût tout pardonné, car elle le connaissait sans l'ombre de méchanceté, et pourvu seulement qu'il l'aimât, elle le tenait quitte du reste. Arrive. Oh, nous avons à causer, fit Robert après un silence. Je te suis, dit Marthe doucement. Des deux pièces dont se composait l'habitation de Robert, causale et qui se montraient l'une à l'autre par le soulèvement d'une draperie, les treilles d'un même papier rustique, l'une servait de chambre à coucher, l'autre de cabinet de travail. C'est en celle-ci que les deux amants pénétrèrent, Marthe la première, puis causale qui ramena violemment la porte et donna deux tours de clé. « Tu vas pas m'assassiner, au moins » fit-elle en affectant de plaisanter. Marthe, qui l'avait regardé faire. « Tragique, il répondit, peut-être. » Mais, comme par quelques points toujours perçait le non-sérieux de ses exaltations, il songea soudain que sa casquette jetait dans le paysage une note fâcheuse qu'elle jurait avec la gravité des circonstances. Il eut la vision d'Othello demandant « Avez-vous prié Dieu, Desdémone ?» avec un chou-fleur sous le bras. Il empoigna la coiffure à pleine main, la lança sur le couronnement d'une bibliothèque XVIe siècle, dont les battants entr'ouverts laissaient voir une armée d'épenaillés dignes 18. Ceci fait, misérable, prononça-t-il en marchant les poings clos sur Marthe. Elle demanda, pourquoi me parles-tu ainsi? Tu sais bien que je n'en ai rien fait. Est-ce ma faute si mon mari revient? Il répondit, oui, c'est ta faute. Oh, c'était tellement exorbitant qu'elle ne put se défendre en un haussement d'épaule. « Oh, tu l'as assez souhaité, ce retour !» poursuivit Robert Causale, lâché toute voile dehors dans les mauvaises défaites, en homme que mettent hors de lui les petites vexations de la vie et qui n'hésite pas, faute de mieux, à demander des consolations aux douceurs âpres de l'injustice. « Mais ce n'est pas vrai !» dit Marthe doucement. « Ce n'est pas vrai !»« Non, ce n'est pas vrai !»« Il faut que tu aies perdu la tête pour me poser une telle question. »« Moi, j'aurais souhaité ce retour. »« Alors que, le sentant obligé, imminent, voilà 15 jours que je ne vis plus. »« Tu mens !» s'écria Causale. Elle sourit. « Je mens !» « Oui, tu mens !» affirma de nouveau le jeune homme, qu'énervait, sans qu'il eût pourquoi, l'extrême douceur résignée de sa maîtresse. « Tu mens aujourd'hui comme tu as menti hier, comme tu as menti toute la vie. Car elle est là tout entière, ta vie, mentir et mentir encore. Crois-tu que je ne te connaisse pas et que je me méprenne à tes airs d'ingénue ?» Elle tenta de placer un mot, il le lui cloua sur les lèvres. « Tais-toi, le seul son de ta voix suffit de m'exaspérer. »« Très bien. » Elle se tut. Il dit, « Ah, ne me regarde pas ainsi, je t'étranglerai. » Elle baissa les yeux. « Oh, prends garde, fit Causale, n'aie pas l'air de te fiche de moi. » Du coup, elle eut un geste là, elle fit un pas vers la porte. Lui bondit, « Ah, ne bouge pas, je te défends de faire un mouvement !» Et d'une voix qui sonna au creux de vieille faïence, constellant le fond tendre du papier, « Je sais parfaitement ce que tu cherches. Tu voudrais filer à l'anglaise, ce qui couperait court à toute explication. Ah, trop commode !» J'en veux une, moi, l'explication. N'ayant eu d'autre tort que celui de t'aimer avec une tendresse aveugle, Je n'ai aucune explication à te fournir, répondit alors Martha Miette. Tu es extraordinaire aussi, et tu me ferais sortir de mes gonds. Marthe, oh oui, tu peux faire tes gros yeux. Tu t'abuses si tu crois me faire peur. Je n'ai peur que d'une chose, c'est de reconnaître en toi l'égoïste et le mauvais cœur que depuis quelque temps je te soupçonne d'être. Moi, un égoïste, fit Causal. C'est fort possible, dit Marthe Amiel. Moi, un mauvais cœur. Je le crois. Ils se regardèrent dans les yeux, et tout à coup Marthe jeta un cri, l'ayant vu qui fondait sur elle. Mon Dieu ! Les mains de Robert Causal venaient de s'abattre sur ses épaules d'un choc tel qu'il la renversa. Ses genoux plièrent. Elle tomba tout assise en les mollesses d'un sofa qui se trouvait là fort à propos pour la recevoir, et il y demeura sans voix, ahurie de se sentir vivante, muette de la peur qu'elle avait eue et trempée des larmes du jeune homme qui lui pleurait dessus comme un veau sanglotant. « Mais tu as raison, je suis le plus misérable des hommes. » Ce jeune premier, à vrai dire, manquait parfois de suite dans les idées. Il voyait volontiers la vie comme en un de ces stéréoscopes automatiques où, sous l'action d'un mouvement d'horlogerie ingénieusement combiné, se déroulent des vues diverses. Venise la Rouge, la mer de glace, l'heureuse famille d'après Goetz et le portrait de Léopold qui régna sur le peuple belge. En sorte qu'à la même minute où, les yeux à l'appareil, il regardait avec horreur une Marthe perfide et traîtresse en train de se gorger d'impostures, la mécanique avait joué, abattant sur la première Marthe une Marthe deuxième manière, qui ressemblait à sa devancière à peu près comme le roi des Belges ressemblait à la mer de glace. Une Marthe aux puretés immaculées, aux patiences inaltérables, aux doux sourires de grande sœur. Enfin, une façon de sainte Marthe à laquelle manquait seulement une auréole derrière la tête pour être une sainte très dans le train. Bien entendu, son cœur sensible en avait eu un saut de cabri, et instantanément avait monté en lui tout un flot de sentiments louables. Que dis-je, un flot ? Un mascaret ! Oui, un mascaret aux eaux lourdes, charriant 36 choses à la fois. La reconnaissance d'avoir été aimé, l'horreur d'avoir été injuste, la crise passionnée et complexe d'un converti qui baisse l'image du Sauveur après l'avoir foulé aux pieds. Marthe, mon chien, mon chat, mon trésor, ai-je bien pu te parler ainsi? Oh, jamais tu me le pardonneras. L'aperçu grossièrement exagéré de ses torts lui montrait grossièrement outré les rancœurs de sa maîtresse. Celle-ci, cependant bouleversée, « Mais quel enfant » répétait-elle. « Mais ne voilà-t-il pas un bébé ? A-t-on idée de pleurer comme ça ? Bien sûr, oui, je te pardonne, grosse bête. » Il demeurait inconsolable, avec de furieux hochements de tête, qui persistaient à dire « Non !» et niait le pardon des injures, malgré la loi et les prophètes. Un moment vint où Marthe Amiette dut lui conseiller doucement « Bouche ton nez, mon petit Robert !» Il voulut bien moucher son nez, n'étant entêté que dans le remords. Mais cette opération accomplie, il eut le soupir pesant et grave du bœuf qui a atteint le coup de masse. « Oh !» C'était la jalousie, la fâcheuse jalousie, qui sournoisement venait jeter de l'huile sur le feu et mettre son grain de sel dans la conversation. « Toi, un autre !» s'exclama-t-il. « Tu seras un autre ce soir !»« Mais non !» répondit pour la forme Marthe, très embarrassée. Il lui cria « Oh, n'en dis pas non !» Et de cet instant, sa douleur ne connut plus de bornes. Il avait pris entre ses mains le visage jeune et doux de Marthe, qui s'était accroupie entre ses genoux écartés, déjà tout en larmes, elle aussi. Avide de les voir et de les revoir, il contemplait ses yeux couleur de beau temps, qui tant de fois lui avaient souri, ses lèvres qui tant de fois avaient baisé les siennes, et que bientôt baiserait, hélas, une autre bouche. À travers son chagrin trop gros, son amour lui apparaissait agrandi jusqu'à l'excessif. Et il parla longuement, en des mots qui auraient voulu être des caresses, de ces mots que vont chercher, on ne sait où, les amoureux exaltés qui grisent les femmes comme des alcools et qu'elles boivent les yeux fermés. Il dit à Marthe, folle de l'entendre, combien il lui était cher et combien il était à plaindre. Il évoqua le spectre des beaux jours enfuis. Il rappela à quel point elle lui avait été bonne, s'accusa de n'en avoir récompensé par la plus noire ingratitude et s'en flétrit avec la dernière énergie. Ceci sans que ni elle ni lui eussent au juste à propos de quoi. Chaque fois qu'un attendrissement lui revenait à la mémoire, les larmes lui revenaient aux cils en gouttelettes pressées et claires, que la jeune femme au sang-cou séchait sur ses joues barbouillées. À la fin, il déclara n'avoir aimé qu'elle seule au monde. « Que toi, tu entends bien, que toi, tu auras été toute ma joie, toute ma pensée, toute mon âme, et ma vie restera jamais parfumée d'avoir été mêlée à la tienne un instant. » Douce et absurde parole. Sur la bouche tendue de Marthe Amiet, fleur de chaque jour semblable maintenant au cœur saignant d'un petit oiseau, il en posa, comme des baisers, les lentes syllabes murmurées, à peine, tant et si bien qu'il allait peut-être mourir pour avoir trop donné de soi, quand se décrocha de nouveau l'ingénieux mouvement d'horlogerie contenu au flanc du stéréoscope. Alors, la farce fut jouée. Comme dit l'autre, les carottes furent cuites. Sainte Marthe fit la culbute et à sa place, se vit une petite silhouette rousse qui se tordait de rire, les jupes en l'air au bord d'un lit, cependant que pour la punir de lui avoir tiré la langue, un jeune homme qui ressemblait à Causal comme un frère lui chatouillait la plante des pieds. Un vaste panier de blanchisseuse, empli de linge soigneusement plié, parfaisait ce tableau symbolique. À cette vue, eh, mais c'est juste, se dit l'amant de Marthe Amiet, c'est le jour d'Anita, au fait. Il renifla, ravala un sanglot, essuya ses yeux à sa manche. « Allons, soyons âmes, dit-il. Il faut nous quitter, ma chérie. »«
Tu me renvoies ?»
demanda en se relevant Marthe, que ne laissait pas de surprendre ce passage sans transition du déluge à l'accalmie. « Mais je te renvoie pas, tu le sais bien, » répondit Robert Causal. « Mais voilà, j'ai affaire. Il faut que je sois à midi rue Lafitte. » Tout aussi bien eût-il pu dire carrefour de l'Observatoire ou boulevard de la Contrescarpe, ça ne lui eût pas coûté plus cher. Prudent, toutefois, en ingénu roué qu'il était, il coupa court à une interrogation possible. Lui-même, il questionna. Donc, comme ça, c'est fini. Jamais plus nous ne nous reverrons. Marthe se récria.
Mais pourquoi donc ?
Dame, elle reprit. Mais nous nous reverrons comme avant. Un peu moins, un jour fixe peut-être. Voilà tout.
Bien vrai ?
Bien vrai.
Tu le jures ?
Je le jure. N'aurai jamais une heure de liberté, qu'elle soit pour toi, mon chéri.
Causal, plein de gratitude, lui cria qu'elle était un chou.
Mon roi, fit-elle, mon cœur, dit-il.
À travers les pleurs mal séchés qui leur mouillaient encore les cils, les deux amoureux se sourirent. Leurs bouches, une fois de plus, s'enlacèrent, attardées sur l'ivresse de la caresse dernière. Puis spontanément se désunirent, afin d'arrêter en commun des initiales pour la poste restante. Robert Causal prit celle de Marthe, qui prit celle de Robert Causal. M.H. pour lui, R.C. pour elle, et pour tous les deux, 31, quantième fatal de cette journée de deuil. Ils prirent l'engagement mutuel de s'écrire tous les matins, se répétèrent que leurs deux existences étaient nécessaires l'une à l'autre, arrachèrent de nouvelles larmes à des sources qu'ils auraient eu le droit de croire taries. Enfin, Martha Millette partit. Par la croisée de sa maisonnette, dont il soulevait le rideau, Causal la regarda se hâter le long d'une haie de glaïeuls qui avait l'air de s'être mis là tout exprès pour la voir passer. Elle atteignit la barrière qu'elle tourna, mais il ne la perdit point tout entière, car pendant un instant encore, au-dessus des sureaux marins, enchevêtrés de volubilis, de capucines, de pois de senteur, qui enfermait son petit jardin, l'isolait de l'allée commune de la Villa Bonabri, il vit glisser, ainsi que des fleurs animées, les bluets, les coquelicots du chapeau de celle qu'il aimait. Il était temps qu'il fût seul. 5 minutes à peine s'étaient écoulées depuis le départ de Martha Millette, que de nouveau s'ouvrit la porte du pavillon, laissant voir sur un fond de verdure la blanche camisole, le jupon rapiécé et les savates à image d'Anita, la blanchisseuse. Sans même se donner le temps de déposer son panier, « Tiens, c'est donc que vous avez pleuré ?» fit cet enfant, couverte de taches de rousseur, et dont les cheveux, parfaitement splendides, mais huilés comme des essieux, présentaient la cajou vernie des châtaignes au mois de septembre. Causal se dit « Bon, j'ai été bête, j'aurais dû me bassiner les paupières à l'eau fraîche. » Il ne s'attarde cependant pas en d'inutiles dénégations. Prit la main dans le sac, il avoua « Ben, j'ai pleuré, c'est vrai. » Elle reprit. « Oh, voilà une affaire. Pourquoi que vous avez pleuré ? C'est dit qu'on vous a fait quelque chose ?»« Répondit-il, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que... Enfin, voilà. Depuis une heure, je cherche ma casquette. Je ne peux pas me rappeler où je l'ai mise. » Ah, cette explication insensée déchaîna chez Anita, d'abord changée en statut de sel, des transports d'allégresse qu'il partagea d'ailleurs. Seulement, comme il s'était levé et que, pressé de changer la conversation, il commençait, tout en rigolant, à venir lui rôder près des jupes, elle se rembrunit soudain. Car le programme ne variait jamais avec elle. Personne pauvre mais honnête, qui pas une fois ne s'était résigné au sacrifice de sa vertu sans l'avoir défendu chèrement pendant au moins 5 minutes. C'était d'abord l'étonnement, l'œil effaré d'une niaise qui ne sait pas ce qu'on lui veut. Venait ensuite l'imagination, l'indignation, mère des exclamations bruyantes et des menaces coutumières aux petites blanchisseuses de le dire à madame en rentrant. Le tout s'achevait au bord du lit, bien entendu, mais non point sans qu'elle appréciât la tête régulièrement secouée du même hochement mélancolique. Eh ben vrai, c'est du propre. Nous devons d'ailleurs déclarer, pour l'excuse de cette pécheresse, qu'on lui menait à l'assassinat sans l'ombre d'une hésitation, rien qu'en la menaçant à demi-mot d'une chatouille sous la plante des pieds. Le respect de cette partie de son être extraordinairement délicate, il faut croire, avait fini par devenir chez elle une manière de hantise, au point qu'il suffisait à Robert Causal, lorsqu'elle avait jugé à propos de faire sa poire et de rechigner sur la bagatelle, de prononcer gravement « La plante !» en élevant vers le ciel l'index du justifié pour qu'elle jetât les cris aigus d'un marmot baraillard et poltron devant lequel on a évoqué l'ombre farouche de Croque-Mitaine. Il le savait et ne laissait pas que d'exploiter cette infirmité morale avec quelque indiscrétion. Aussi n'eut-il garde d'y faillir ce fatal 31 août, cet exécré 31 août qu'il atteignait si cruellement au plus sensible de ses affections. Feignant avoir vu l'apprenti lui faire sournoisement « Oh, je te ratisse !»« Ah, tu me ratisses » cria-t-il. « Ah, tu manques à la déférence !» La plante, la plante, la plante. L'autre, en entendant parler de plante, lâcha son panier et se trotta affolé à l'idée de ses doigts qui menaçaient de venir lui grignoter les pieds comme une bande de petites souris. Le jeune homme lui donna la chasse, la rejoignit en un angle de la chambre où elle s'affala bruyamment, masse grouillante, hurlante, bafouillante, qui battait l'air de ses jambes et de ses bras, protestait de son innocence et s'insurgeait contre l'iniquité du châtiment qui l'attendait. Causal, lui, jouait l'inexorable. Point de pitié pour les insolentes qui font « je te ratisse » aux personnes, répétait-il. D'ailleurs, il n'y a plus rien à faire, le tribunal a prononcé la peine. Enfin, pourtant, il désarma. Érigé en cour suprême, il rendit un nouvel arrêt confirmant, quant au fond, le jugement du tribunal de première instance, mais ajoutant qu'eu égard aux antécédents de la coupable et aux remords dont elle témoignait, il y avait eu lieu de lui appliquer le bénéfice de la loi Béranger. Ensuite de quoi, ce magistrat, dépourvu de toute vergogne, réclama le prix de sa clémence.